France Culture.
En Ukraine, que peut changer l'arrivée de Donald Trump alors qu'aucune date de rencontre n'a encore été fixée avec Vladimir Poutine? Quelle vision s'affronte aujourd'hui sur cette guerre? Les intérêts, les représentations des Ukrainiens, des Européens et des Américains sont-ils les mêmes? Les Américains et les Européens visent-ils désormais les mêmes objectifs? En quoi la temporalité, les ambitions et les craintes de chacun peut diverger? Pour en discuter, pour en débattre même, deux invités ce soir, Anna Colin-Lebedev, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Vous travaillez sur les sociétés post-soviétiques. Vous avez notamment publié « Jamais frères, point d'interrogation, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique », un ouvrage qui est paru au Seuil en 2022 et en poche chez Point en 2023. Face à vous, Michel Duclos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien ambassadeur, conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne. En 2023, vous avez dirigé l'ouvrage intitulé « Guerre en Ukraine et nouvel ordre du monde ». C'était aux éditions de l'Observatoire. Et votre dernier ouvrage, paru en 2024, s'intitule « Diplomatie française ». C'était chez Alpha Essai. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Questions du soir. Et la voix de trois hommes pour entamer cette discussion, Donald Trump, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.
Je dois parler au président Poutine, on va devoir trouver une solution. Zelensky veut conclure un accord, je ne sais pas si Poutine le veut, peut-être pas, mais il devrait. Je pense qu'il détruit la Russie en ne concluant pas d'accord.
S'il y a une volonté, toute question juridique peut être réglée. Jusqu'à présent, nous ne voyons tout simplement pas une telle volonté. Il est possible de négocier avec n'importe qui. Mais en raison de son illégitimité, Volodymyr Zelensky n'a pas le droit de signer quoi que ce soit. Mais s'il veut participer aux négociations, je désignerai des personnes pour y prendre part.
Notre service de renseignement extérieur a évalué le potentiel militaire de la Russie et la volonté de Vladimir Poutine de poursuivre la guerre, de manipuler les dirigeants du monde et en particulier de manipuler la volonté du président des États-Unis de parvenir à la paix. Mais je suis convaincu qu'aucune manipulation russe ne réussira plus.
Anna Colin-Lebedev, lorsqu'on entend ces trois hommes, on se dit que la Russie et l'Ukraine sont peut-être engagés sur le chemin de la paix. Est-il trop tôt, cependant, selon vous, pour parler d'ores et déjà de négociations et des attentes quant à ces négociations?
Je pense que chacun des acteurs dans ce jeu d'entrée ou non dans les négociations voit une guerre différente des autres, avec une temporalité différente et des objectifs différents. Je pense que ça n'a rien d'original, la guerre en Ukraine n'a rien d'original en ce sens, mais c'est particulièrement visible en ce moment. Et je dirais, nous avons aussi une tendance à amplifier au vu de l'actualité américaine et de la promesse de Donald Trump de régler dès son arrivée à la Maison-Blanche la guerre en Ukraine. Bon, on se rappelle de ces 24 heures, mais en tout cas rapidement, je pense que nous nous sommes aussi saisis de ça pour anticiper une urgence des négociations qui n'est pas forcément évidente, à mon avis, pour tous les protagonistes.
Vous dites cela parce que les États-Unis, l'Europe ont un intérêt à ce que les négociations avancent et avancent vite?
Je pense que là, on a des objectifs politiques qui vont être différents pour chacun des acteurs. Il y a aussi des contraintes qui vont être différentes pour chacun des acteurs. Pour ma part, en fait, je vois qu'en Ukraine, eh bien, ma foi, cette idée de négociation, elle est à la fois complètement présente. L'idée de discussion, de pourparler de paix est complètement présente dans la société ukrainienne. Mais aujourd'hui, ils agissent surtout sous pression à la fois d'une anticipation de la baisse de l'aide occidentale et notamment américaine, et sous pression aussi médiatique où les Ukrainiens sont poussés à accepter la négociation, à se montrer désireux de négocier et quelque part rentrer dans ce processus.
Michel Duclos, est-ce que vous abondez? Est-il trop tôt, selon vous, pour parler de négociation, pour parler des attentes quant à ces négociations?
Bon, moi, je suis diplomate professionnel, donc je sais qu'il n'est jamais trop tôt pour définir les paramètres d'un accord éventuel. Alors, parfois, c'est trompeur, parce que finalement, si ça crée l'illusion qu'il faut arrêter de soutenir les Ukrainiens ou que c'est moins important, là, ce serait désastreux. Inversement, c'est bien que nos dirigeants se penchent sur la question, parce que s'ils y réfléchissent sérieusement, ça les amènera à conclure qu'il y a quand même très 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 peu de chances qu'un accord de paix soit possible à courte échéance, parce qu'on ne voit pas pourquoi Poutine céderait alors qu'il a l'impression qu'il a le vent en poupe. et qu'il a l'impression qu'il peut tirer quelque chose de Trump. Et donc, ce serait vraiment très étonnant. Mais donc, c'est utile d'y réfléchir. C'est utile d'y réfléchir dans toutes ses implications, y compris celle-là, que si on veut la paix, malheureusement, il faut quand même continuer avant tout à soutenir les Ukrainiens.
Anna-Colin Lebedev, vous avez dit un peu plus tôt que chacune des parties avait une vision différente de cette guerre. Quelle est la vision proprement ukrainienne? Comment les Ukrainiens se projettent aujourd'hui dans cette guerre?
Alors je dirais que c'est peut-être le changement le plus radical que nous avons vu dans la société ukrainienne depuis le début de cette guerre il y a bientôt 3 ans. Il y a 3 ans, on anticipait une guerre courte quand les Ukrainiens ont vu en fait qu'ils étaient en capacité de repousser l'armée russe, que l'armée russe avait aussi des défaillances. Ils se projetaient sur une résistance qui s'organiserait rapidement, un soutien qui arriverait vite puisqu'on était face à une invasion à grande échelle.
Pourtant, elle a commencé en 2014 pour eux cette guerre.
Alors, il y avait déjà cette idée, effectivement, que Poutine était dans une continuation de ce qu'il avait commencé à faire en 2014, et pour certains même, en fait, en amont, ce que la Russie et l'Union soviétique avaient commencé à faire dès l'époque soviétique, voire dès l'Empire russe. Hein, on a effectivement une espèce de profondeur historique de l'agressivité de la Russie à l'égard de l'Ukraine qui s'est construite et dans l'imaginaire des Ukrainiens et qui est devenue aujourd'hui complètement dominante et mainstream. Mais je dirais qu'il y a aussi un autre phénomène. Hein, la guerre est profonde dans le passé, mais la guerre est devenue, je dirais, beaucoup plus longue et beaucoup plus durable dans la perception des Ukrainiens, notamment sur cette dernière année, mais je sens ça depuis plus longtemps, depuis un an et demi, à partir du moment où les Ukrainiens ont compris que les partenaires occidentaux n'étaient pas forcément prêts à les soutenir suffisamment pour qu'ils puissent franchir un certain nombre de ce qui était défini comme des lignes rouges et qui faisait extrêmement peur aux partenaires, et que donc cette interprétation est montée. Hein, on leur donnait assez d'armes pour se défendre, mais on leur donnait absolument pas assez d'armes pour gagner. Mmh. Et donc la guerre s'inscrivait dans une durée. Alors aujourd'hui, la société ukrainienne a du mal à se projeter dans une temporalité de la guerre, et quand elle s'y projette, elle se projette sur une guerre qui se compte, et là c'est très contradictoire avec l'idée de la négociation et d'un accord de paix, elle se projette sur des décennies, en se disant la Russie va rester hostile à notre égard, nos partenaires ne seront plus aptes à nous protéger demain qu'ils ne le sont aujourd'hui, donc en fait, eh bien, il faut que nous-mêmes, en fait, on apprenne à résister contre la Russie et à combattre la Russie dans les décennies qui viennent.
Sur des décennies.
Des décennies.
Michel Duclos, vous l'avez dit, vous êtes diplomate professionnel. Dans les rencontres, dans les relations que vous avez nouées en Europe, aux États-Unis, parmi les dirigeants que vous rencontrez, est-ce que cette temporalité, elle-même, on a l'impression que en Occident, c'est un terme un peu vague, un peu large, la temporalité est radicalement différente, que le temps est beaucoup plus court?
Oui, complètement. Alors, peut-être, d'abord, pour compléter ce que disait Anna-Colin, ce qui est frappant, c'est qu'en Russie aussi, il y a ce sentiment qu'au début, ils ont pu espérer que ça ne durerait pas trop longtemps. Puis à partir d'un certain moment, mes interlocuteurs russes m'ont dit « Maintenant, on a compris, ça va durer très longtemps. » Et donc, ça va durer très longtemps parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas les moyens de subjuguer l'Ukraine très vite. Et puis, ça va durer très longtemps parce qu'ils savent bien que Poutine est quelqu'un qui, lui, est sur une guerre à mort avec les Occidentaux, qui dans son esprit, ce sera la tâche pour sa mission pour le restant de sa vie. C'est comme ça que les Russes le perçoivent. Alors maintenant, sur la question les Européens, les Américains, là, malheureusement, c'est très compliqué parce que il y a plein de factions aux États-Unis. Si vous prenez l'entourage de Trump, vous avez des gens comme son vice-président ou comme son fils, qui avait eu des propos extraordinairement méprisants pour les Ukrainiens. Eux, ils arrêteraient tout de suite, ils arrêteraient tout soutien. Vous avez des gens quand même plus raisonnables, comme Michael Waltz, le nouveau conseiller national de sécurité, ou comme l'émissaire désigné par Trump, le général Kellogg, qui eux sont assez proches de nos idées, c'est que si on veut un accord, il faut d'abord que les Ukrainiens tiennent le coup. Et si on veut faire céder Poutine, si on veut l'amener à la table de négociation, il faut plutôt mettre des pressions supplémentaires sur la Russie. Et Trump, on n'est pas très sûr d'où il est exactement. Et en plus, il peut changer d'avis, c'est-à-dire il peut vouloir faire le bien, et puis si ça marche pas, laisse passer un autre sujet, quoi. Voilà l'état d'esprit aux États-Unis. En Europe, je crains qu'il y ait effectivement cette illusion que c'est un mauvais moment à passer, mais que si un jour on parvient à un accord, ça mettra un terme à cette crise et on pourra passer à autre chose. Et là, vraiment, si on peut être utile dans ce genre d'émission, c'est d'expliquer à nos concitoyens que non, on passera pas à autre chose. Ce sera peut-être une autre forme de guerre, mais la guerre hybride, l'hostilité avec la Russie, c'est là pour au moins une décennie.
Il y a quelque chose aussi qu'il peut être utile d'expliquer à ce micro, Anna Colin-Lebedev, c'est que contrairement à l'idée reçue, contrairement à l'idée extrêmement répandue aujourd'hui dans le champ médiatique, les Ukrainiens ne sont pas pour la paix et pour la paix immédiate et rapide. Ils ne sont pas non plus fatigués, les Ukrainiens, de cette guerre. Je veux dire par là qu'ils ne sont pas démobilisés sur le front.
Oui, je vous remercie de soulever cette question. Moi, c'est quelque chose qui me choque depuis plusieurs mois, sur toute cette dernière année, en fait, dans la couverture médiatique que l'on peut avoir de la guerre en Ukraine. C'est cette répétition d'un récit d'une Ukraine extrêmement fatiguée, épuisée, et par épuisée, en fait, on prend le terme au sens propre, c'est-à-dire vidée de toute ressource. Et donc, voilà, comme une voiture qui n'a plus de carburant, c'est épuisé, on s'arrête, on ne peut plus avancer. Également, je dirais, il y a cette idée qui également se répand d'Ukrainiens qui seraient tellement à bout qu'ils auraient la volonté de négocier absolument à tout prix. Et récemment, par exemple, j'ai signalé à une chaîne de télévision française qu'ils avaient déformé complètement une interview du président Volodymyr Zelensky pour lui faire dire que oui, Trump lui tordait le bras pour le forcer à s'asseoir à la table de négociation et il pouvait lui demander ce qu'il voulait, alors qu'en fait le président Zelensky, dans la version originale, n'avait jamais dit ça. Donc je pense qu'il y a une espèce d'idée de construction collective aussi d'une image d'une Ukraine qui serait dans cet état-là, qui ne correspond pas complètement à ce qu'on, enfin qui ne correspond pas du tout à ce qu'on observe sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'on observe sur le terrain, à partir des enquêtes que j'ai pu faire et que d'autres ont pu faire,
et des quelques sondages qui paraissent aussi régulièrement,
et des enquêtes d'opinion publique qui sont faites en Ukraine, on a effectivement des Ukrainiens qui, objectivement, la fatigue est là. Notamment les combattants qui sont sur le front depuis bientôt 3 ans, pour certains, sont extrêmement fatigués. Les civils sont fatigués aussi d'être constamment l'attaque, même en territoire non occupé, constamment sous des bombardements russes, etc. Les institutions doivent travailler dans un état d'urgence permanent. Je pense par exemple aux services publics. Et néanmoins, en fait, on constate au contraire une sorte de mobilisation permanente de la société ukrainienne pour faire face à cette situation. C'est-à-dire qu'on a par exemple parlé du système de chauffage et du système électrique ukrainien, dont on craignait que cet hiver il soit complètement détruit, hein, par les attaques russes. Eh bien, on constate qu'il y a quand même un effort constant des Ukrainiens de maintenir, de réparer, de faire fonctionner les services publics, et qui maintient une sorte de normalité de la vie à l'arrière. Les Ukrainiens préservent ce qui peut être préservé, et surtout, en fait, s'attachent à trouver toujours de nouveaux moyens. Des moyens de renouveler leur défense, renouveler leur soutien à l'armée, renouveler le fonctionnement quotidien. Ils sont extrêmement, quant aux civils, extrêmement nombreux, en fait, à s'engager dans des activités de défense qu'on ne voit pas. On focalise beaucoup sur l'armée ukrainienne, mais on ne voit pas tous ces civils qui collectent en permanence de l'argent, qui fabriquent des drones, qui s'engagent volontairement pour le front, qui livrent de l'équipement au front. Et chez ceux-là, en fait, quand la fatigue vient, je ne vois pas le questionnement sur est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on n'arrête pas, mais je vois la question comment est-ce qu'on peut faire autrement face à une difficulté. Et je dirais que l'une des choses surprenantes pour moi après l'élection de Donald Trump a été dans la réaction des Ukrainiens ordinaires, pas des acteurs politiques, cette réaction en disant Trump, ça va être un problème, mais ça va juste être un des problèmes auxquels on doit faire face parmi d'autres, et comme pour les autres problèmes, on va trouver une solution.
C'était pas Michel Duclos comme on a pu le penser, nous en tout cas, c'est la vision qu'on en avait, en Europe et en France. Un point de bascule pour la guerre en Ukraine, cette élection de Donald Trump. Vous relativisez, vous aussi, cette dominante de l'élection américaine dans le jeu ukrainien?
Je n'en sais rien. C'est-à-dire, il est possible, comme je l'ai dit, que Trump décide de tout lâcher. Hein. Après tout, il faut se souvenir ce qui s'est passé en Afghanistan. Tout le monde a en tête le retrait américain épouvantable d'août 2021. Mais ce retrait, il avait été pré-négocié par Trump, enfin, l'administration Trump, et les talibans en court-circuitant les autorités afghanes. Donc là, il peut y avoir, c'est un des scénarios possibles, à un moment donné, chez Trump, surtout si c'est un homme qui est sensible à la flatterie, si Poutine sait le prendre. Et il y a ce côté-là qu'il faut bien voir, c'est que Zelensky a eu l'habileté d'adapter son langage, de trouver la bonne communication pour le flatter, essayer de l'amener dans son camp. Mais Poutine, c'est aussi un grand spécialiste de ce genre de choses.
C'est d'ailleurs le risque principal que pointe Volodymyr Zelensky hier dans un message diffusé, voilà, notamment sur X, hein, le fait que Poutine tente de manipuler Donald Trump aujourd'hui psychologiquement.
Donc là, c'est clair, il faut être honnête, il y a un élément d'incertitude. Sur la société ukrainienne, je ne peux pas dire grand-chose de plus qu'Anna Colin, qui connaît ça beaucoup mieux que personne. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, comme souvent dans les sociétés affrontées à de très grandes difficultés, il y a une créativité qu'il n'y a pas dans nos sociétés. Par exemple, on m'a cité un cas précis, c'est que beaucoup d'usines, maintenant, sont dirigées par des femmes, et des femmes de 35 ans. Et ces femmes de 35 ans, bah, elles ont des idées. Elles ont pris le pouvoir, et elles ont l'occasion de montrer qu'elles peuvent prendre des initiatives, elles trouvent des solutions innovantes, etc. C'est aussi ça l'Ukraine en guerre, je crois.
L'autre idée extrêmement répandue, là encore une fois, dans le champ médiatique, Anna Colin Lebedev, c'est l'idée selon laquelle les Ukrainiens souhaitent ardemment négocier. À quel point cela est vrai, cette idée ?
Les Ukrainiens souhaitent la paix, ça c'est certain. Et je dirais, voilà, 100% de la population ukrainienne...
Mais pas n'importe quel terme.
Exactement.
C'est ça le problème.
Cherche la paix, mais ne sont absolument pas prêts. Et ça, toutes les enquêtes d'opinion qui sont conduites en Ukraine le confirment, ne sont absolument pas prêts à une paix à tout prix. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont qui leur paraissent inacceptables, et je dirais cette inacceptabilité n'a pas beaucoup bougé depuis 3 ans. Par exemple, il apparaît absolument inacceptable aux Ukrainiens que la Russie les force à renoncer à son adhésion à l'Union européenne.
Sur la question des territoires de l'Est, alors, par exemple, quelle est la position de l'opinion ukrainienne sur le sujet ?
Alors, sur la question des territoires, que je lirai étonnamment à la question de la temporalité, il y a eu quand même une évolution, c'est-à-dire que la position au début de la guerre était cette guerre n'est pas une guerre territoriale, hein. Poutine ne veut pas occuper des territoires, Poutine veut prendre le contrôle sur l'Ukraine, déstabiliser l'Ukraine, faire en sorte que l'Ukraine ne puisse jamais être maîtresse véritablement de son propre destin, et les territoires sont des outils, notamment les populations sur ces territoires sont des outils. Et donc en fait, les Ukrainiens étaient avant tout, ils continuent à être préoccupés par la protection des populations sur ces territoires, et notamment les territoires nouvellement occupés, qu'ils considèrent être sous occupation militaire, violente, voire génocidaire. Hein, et voilà, chaque nouveau signal qui nous arrive des territoires occupés, je dirais, conforte les Ukrainiens dans cette opinion. Mais aujourd'hui, ils voient bien que il y a quelque chose dans le timing qui fait que probablement, en termes militaires, ils n'arriveront pas à reconquérir et à protéger ces citoyens, reconquérir ces territoires immédiatement pour protéger ces citoyens immédiatement. Et donc, je pense que le discours qui se répand aujourd'hui dans la société ukrainienne, qui n'est pas acceptable pour la totalité de la population, ça, il faut bien en avoir conscience, mais qui commence à se faire place, c'est un accord qui, je dirais, laisserait hors contrôle de l'Ukraine de facto les territoires occupés, serait une étape provisoire jusqu'à ce que l'Ukraine puisse à nouveau reprendre des forces et protéger, libérer les populations qui y vivent. Sachant qu'il y a quand même une différence qui était déjà sensible, qui était là et qui est encore plus sensible entre les territoires occupés depuis février 2022 et les régions, la région annexée par la Russie de la Crimée. Crimée en 2014 et les républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk, avec lesquelles il y a un historique et je dirais un certain nombre de visions de ce qui se passe sur les territoires qui est un peu différente de la vision de ce qui se passe dans les territoires de la région de Zaporijia et de Kherson.
Comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que vous comprenez vous-même, Michel Duclos, la position officielle aujourd'hui du pouvoir ukrainien sur ces négociations? Justement, si on écoute Volodymyr Zelensky, il nous dit des négociations d'accord, mais à condition d'avoir des garanties de sécurité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement?
Je crois que Zelensky, lui, a tourné une page avec l'arrivée de Trump et qu'il a été amené à, dans ce qu'il appelle son plan de paix, dans son plan de victoire, pardon. Avant, il parlait d'un plan de paix qui était un plan de victoire. Maintenant, il parle d'un plan pour la victoire qui, en fait, implique, au contraire, un tiroir négociation. Et il prépare son opinion à un échange entre des concessions territoriales et les fameuses garanties de sécurité. C'est-à-dire un échange entre accepter, non pas sur le principe, naturellement, jamais aucun Ukrainien n'acceptera que le Donbass et la Crimée soient russes. Mais enfin, ils seront obligés d'accepter, dans le cadre d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix, la réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas déloger les Russes. Et en échange de ça, il faut que l'Ukraine conserve sa souveraineté, donc sa sécurité, donc bénéficie d'une protection. Et là, ils ont eu l'expérience du communiqué de Budapest. Ils savent ce que signifient les paroles des Occidentaux sur un papier. Vous savez, c'est ce mémorandum qui, en l'échange des armes nucléaires que détenait l'Ukraine à l'issue de l'éclatement de l'Union soviétique, les Ukrainiens renonçaient aux armes nucléaires et les puissances nucléaires renonçaient à attaquer l'Ukraine. Donc ils ont vu ce que ça donnait. Donc ils ont besoin, pour faire des concessions territoriales, ils ont besoin d'être absolument certains qu'ils auront des alliés pour protéger leur sécurité, donc leur souveraineté. C'est ce qu'on appelle les garanties de sécurité.
Pardonnez-moi, je vous permets de vous couper, mais pour entrer plus encore dans le détail et dans le concret, est-ce que ces garanties de sécurité, ça revient à exiger pour le président ukrainien des hommes, des forces européennes aujourd'hui sur le sol ukrainien?
Alors, son option préférentielle, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais il voit bien que ni les Américains, ni les Allemands, ni d'autres ne le veulent.
Donc, diplomatiquement.
Ça reste un objectif, mais ils se rendent bien compte que ce ne sera pas dans l'immédiat. Une autre alternative, ce serait des bases de l'OTAN en Ukraine. Et là, évidemment, tout le monde voit bien que là aussi, les Américains seraient réticents et que pour les Russes, c'est pas possible. Donc la troisième question qui reste, elle est simple, c'est un certain déploiement de troupes européennes avec un soutien américain en Ukraine. Et si vous voulez, malheureusement, le président Macron, quand il avait lancé l'idée, l'avait fait sans préparation, dans une réunion à l'Élysée au début de l'année. Donc ça avait provoqué des réactions de la part de tous les autres Européens. Mais avec le recul, petit à petit, c'est quand même à cela que les uns les autres en viennent. Alors les Allemands, tant que ce sera le gouvernement actuel, certainement pas. Est-ce qu'avec un nouveau gouvernement, ce sera différent? Je pense que les Britanniques évoluent aussi dans ce sens-là, les Polonais. Et s'il se trouve un groupe central européen entre la France, le Royaume-Uni, la Pologne, espérons-le, l'Allemagne après les élections, ça permet quand même de faire bouger les choses. Et voilà comment on peut se dessiner les paramètres de ce que pourrait être un accord. Alors évidemment, les Russes diront non, hein, bien sûr. Mais ça, c'est à nous d'expliquer à Trump. Un accord, ça suppose que les deux parties fassent des concessions. Les Russes ne peuvent pas dire on ne veut pas ceci, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela, et ils ne veulent rien du tout, sauf mettre la main sur l'Ukraine. Là, ce n'est plus une négociation, Monsieur le Président.
Anna-Colin Lebedev, je reviens un instant sur la figure de Volodymyr Zelensky. À quel point ce président est-il encore légitime pour sa population ? On entend régulièrement Poutine dire que c'est un président illégitime désormais, puisqu'il a repoussé les élections. C'est la loi ukrainienne qui le permet jusqu'à la fin de la guerre. On voit, on sent aussi que ses opposants politiques semblent entrer dans une campagne qui ne dit pas son nom. Alors à quel point est-il encore légitime, Zelensky, sur son propre territoire ?
Alors je pense que là, une fois de plus, c'est la Russie qui nous a imposé ce questionnement sur la légitimité du président Zelensky et qu'on ne l'aurait pas forcément s'il n'y avait pas cet argument russe. Non, ce n'est pas une fausse question, elle mérite d'être posée. Mais je trouve que quand la Russie injecte des questions dans le débat public, elles portent sur nos points sensibles, et notamment nos points sensibles de sensibilité au fonctionnement démocratique d'un pays, à la représentation politique, etc. Alors, l'idée d'élection a été pendant très longtemps pas du tout tabou, mais complètement rejeté à la fois par la population ukrainienne, mais aussi par l'ensemble de la classe politique ukrainienne, opposition comprise. À la fois pour des raisons objectives de difficulté à organiser cette élection, d'assurer leur représentativité, etc., mais aussi pour des raisons tout simplement politiques, parce que les opposants se disaient que les élections organisées comme ça en pleine guerre, Zelensky était sûr de les remporter, et donc il n'avait aucune chance. Je pense que aujourd'hui, la société est revenue, je dirais, à une vie politique, et à un jeu politique où la critique du président et la proposition d'alternative est aussi tout à fait jouable, entendable, et les Ukrainiens sont assez heureux en fait qu'on leur offre la possibilité aujourd'hui d'exprimer aussi leur désaccord avec un certain nombre de choses faites par le pouvoir. Alors moi, ce que j'entends beaucoup en Ukraine aujourd'hui, c'est on a bien des choses à reprocher à Zelensky, des choses qui datent d'avant 2022 sur sa gestion du pays, un certain nombre de choses sur la gestion de son équipe, un certain nombre de politiques qui ont été adoptées. Mais en revanche, il y a une sorte d'unanimité de le soutenir en tant que chef d'État, en tant que chef d'État représentant son pays dans cette guerre. Là, cette légitimité n'est pas entamée. Je dirais, elle peut être entamée uniquement à un moment où Zelensky, qui s'attache toujours à représenter en fait l'opinion de son peuple et l'état d'esprit de son peuple, ne le représentera plus. Par exemple, acceptera quelque chose à laquelle les Ukrainiens ne seront pas prêts. Mais en tout cas, Zelensky ou pas, je pense, il faut penser en termes de fragilité ou solidité du système politique ukrainien, parce qu'après tout, l'alternance est quelque chose de sain dans un état. Et à mon sens, aujourd'hui, l'Ukraine est arrivée à une sorte de maturité où le départ d'un Zelensky et son remplacement par un autre comme suite d'une élection, eh bien, ne remettrait pas forcément en cause le fonctionnement du pays, son attachement à ses objectifs, y compris sur la scène internationale.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Kaja Kallas, elle est la vice-présidente de la Commission européenne. Elle s'exprime justement sur la position européenne à propos du conflit en Ukraine.
L'Europe est Kiev's largest international donor.
L'Europe est le plus grand donateur international de Kiev. Nous avons fourni plus de 134 milliards d'euros au total, mais il est clair que l'Ukraine a besoin de plus. La ligne de front se déplace vers l'ouest. En conséquence, un soutien militaire accru à l'Ukraine et des sanctions plus sévères contre la Russie doivent aller de pair. Le soutien militaire est également très important pour notre propre sécurité. Je me félicite donc que les ministres européens aient convenu aujourd'hui de prolonger les sanctions contre la Russie. Cela continuera à priver Poutine des revenus nécessaires pour financer sa guerre.
Des propos tenus avant-hier, Michel Duclos, quel peut être aujourd'hui la position de l'Europe, de l'Union européenne dans ce conflit ? Est-ce que tout va dépendre, au fond, de ce que dira Donald Trump dans les prochains jours ?
Alors, nous, notre combat, c'est de ne pas disparaître dans ce qui peut se passer.
C'est de continuer d'exister.
Et c'est de continuer d'exister. Parfois, on se demande si nos dirigeants en sont conscients, parce que on continue, en France, il y a la crise que vous savez, donc on se chamaille sur différentes histoires de politique intérieure. En Allemagne, il y a des élections. Au Royaume-Uni, il y a eu un nouveau gouvernement. On s'est demandé si l'actuel gouvernement travailliste était aussi engagé dans l'affaire ukrainienne. Vous voyez, on est quand même très accaparé par ce qui est après tout la vie normale, la vie politique normale de société démocratique. Mais il n'y a pas cette conscience qu'il y a une menace quand même très précise à notre frontière, qui est que si l'Ukraine perd, la sécurité européenne sera quand même fortement compromise. Et le prestige de grands pays comme la France et le Royaume-Uni dans le monde en prendra un sacré coup. C'est ça qu'il faudrait qu'on réalise. Donc c'est regrettable qu'il n'y ait pas davantage d'unité et de mobilisation autour de l'enjeu ukrainien. Alors, ceci dit, on peut espérer quand même que les gouvernements se parlent, préparent des choses. Là, c'est déjà bien qu'on ait réussi à renouveler les sanctions. On parle d'un soutien accru à l'Ukraine, mais pour l'instant, ça reste quand même des paroles. Madame Kallas, ça fait un an qu'elle a lancé l'idée d'un emprunt de l'Union européenne, qui aurait été une solution, parce qu'évidemment, c'est pas facile de trouver de l'argent dans la situation économique actuelle.
C'est troublant, par ailleurs, quand elle explique que...
Maintenant, elle n'en parle plus, parce qu'elle a été mise en minorité là-dessus.
Mais c'est troublant quand même lorsqu'elle explique que l'aide européenne pourrait pratiquement suppléer l'aide américaine. On se demande si elle y croit elle-même à ce type de propos.
Non, mais aucun doute que les Européens sont parfaitement capables de se substituer aux Américains dans l'aide.
En termes de montant ?
Bien entendu. Là, on en est à peu près à la moitié de l'aide américaine. Et sur le plan militaire, c'est moins, c'est dans les 40%. Mais il ne faut pas croire que les Européens ne font rien. Donc, effectivement, c'est pas un effort démesuré pour les Européens. Et je pense que à d'autres époques, ça ferait plusieurs mois que les Européens auraient mis entre eux un plan pour se dire, bah, en cas de défaillance de Trump, il faut qu'on tienne quelques mois sans l'aide américaine. Et naturellement, c'est à la portée de l'Union européenne. Je n'en ai pas, pour ma part, aucun doute.
Anna Colin-Lebedev, à quel point les Ukrainiens ont-ils eux-mêmes le sentiment de mener une guerre européenne ? Vous nous aviez bien expliqué que l'intégration à l'Union européenne était une condition importante dans l'opinion publique ukrainienne, mais ce sentiment de mener un combat presque d'avant-garde pour défendre des frontières européennes, à quel point est-il vivant au-delà des déclarations d'intention que nous-mêmes pouvons proférer en Europe de l'Ouest ?
Je pense qu'il est certain parce que les Ukrainiens, à la différence de nous parfois, écoutent ce que dit la Russie et prennent au pied de la lettre en fait un certain nombre de déclarations qui sont faites par le pouvoir russe parce que ils connaissent en fait les conséquences que peut avoir une parole en Russie. Là où nous en fait on a tendance et on sait très bien ça depuis le début de cette guerre à diviser par deux voire par trois tout ce qui va être dit par le pouvoir russe, à passer pas mal de choses pour juste voilà du bluff, une manière de faire peur, du déclaratoire. Je pense qu'il y a aussi il y a un historique en Ukraine quand même qui est l'historique de la guerre, de l'agression russe à partir de 2014 et de la guerre dans le Donbass, où il y a une mémoire aussi de la réaction européenne à cette agression russe qui a été de soutenir l'Ukraine, mais de soutenir l'Ukraine d'une manière purement et simplement déclarative, sans aucun engagement tangible autre outre les éléments politiques de participation à la négociation. Entre 2014 et 2022, il y avait beaucoup de blagues circulaient sur l'Union européenne qui se déclarait préoccupée, très préoccupée, grandement préoccupée par tel ou tel sujet dans lequel elle devrait être impliquée. À partir de 2022, l'image de l'Europe a changé et l'image des États européens a également changé parce que effectivement nous nous sommes engagés très concrètement aux côtés de l'Ukraine. Nous avons pris conscience de la gravité de ce qui se passait. Je crois que nous sommes en train de perdre les points que nous avions gagnés à partir de février 2022. Et aujourd'hui, les Européens, en fait, cherchent à se positionner en pensant à leur futur comme une nation qui va être qui ne va pas combattre une guerre européenne, mais qui va être à l'avant-garde de la défense européenne d'une certaine manière. Les Ukrainiens, j'ai dit autre chose ? Les Ukrainiens. Vous voyez, je fais du wishful thinking à ce micro, en pensant par exemple qu'ils ont besoin de construire une armée puissante pour demain, qu'ils ont besoin de développer leur propre industrie de l'armement. Alors bien évidemment, cela c'est lié à des limitations d'usage de certaines armes qu'ils n'auraient pas s'ils utilisaient leurs propres armes. Mais je crois que les Ukrainiens pensent vraiment au-delà, et c'est très perceptible dans la société. Beaucoup d'interlocuteurs que je rencontre pensent que leur avenir en fait est dans le secteur militaire, dans la construction d'une armée, dans la formation d'une industrie de l'armement.
Michel Duclos, et la Russie dans tout ça, est-ce qu'elle est prête à négocier ou là il s'agit encore une fois de plus de grandes déclarations de façade ?
Non, a priori, on ne voit pas pourquoi Poutine voudra négocier maintenant. Hein. Il a le sentiment que les choses vont bien pour lui. Pour le moyen ou le moyen terme, disons, c'est plus compliqué. Et l'une des difficultés qu'on a, c'est justement, les personnalités comptent, surtout dans ce type de système, c'est comment Poutine raisonne. Moi-même, en tant que Russia Watcher, j'avais été frappé par le fait que l'une des leçons que Poutine avait tirées de l'effondrement de l'URSS, c'est qu'il fallait que le pays soit bien géré économiquement. Et donc, pendant les 20 premières années de son pouvoir, il avait laissé les technocrates, les libéraux, comme on dit là-bas, s'occuper de l'économie. Et au fond, il n'interférait pas trop. Alors, il a éliminé les oligarques et des choses comme ça, mais il reconnaissait qu'il fallait que la Banque centrale puisse faire son boulot, que les ministres de l'économie avaient un point de vue aussi important que les gens des services dont il était par ailleurs plus proche. Est-ce que il a complètement basculé de ce point de vue? Est-ce qu'il est dans un autre monde depuis le Covid, depuis l'agression contre l'Ukraine? Il a considérablement augmenté la part des dépenses militaires dans le budget, mais c'est quand même de l'ordre de 6 à 8%. C'est pas 20-25%, hein. C'est pas une société qui est totalement militarisée. L'industrie de défense a pris une très grande place. Elle a un peu de mal à suivre, hein, selon certains indicateurs. Mais vous voyez, est-ce que Poutine est dans un état d'esprit de ce qu'aurait été le Poutine numéro un, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il faut quand même laisser l'économie revivre, ou est-ce qu'il est devenu un autre Poutine, un Poutine qui va mettre tout le paquet sur l'industrie militaire, la défense, jusqu'à, enfin, quelles que soient les conséquences pour son pays.
Anna Colin-Lebedev, sur la Russie toujours.
Moi, j'aimerais faire un pas de côté et nous éloigner de la figure de Poutine pour regarder des éléments plus structurels. Mmh. Et je dirais, en termes d'éléments structurels, il y a la nature du régime politique. Et ça, je pense que là aussi, on revient à des questions de temporalité. Un régime autoritaire, en fait, n'a pas le couperet électoral qui le forcerait à parvenir à une solution rapide.
C'est le régime du temps long.
C'est le régime qui peut se permettre le temps long à condition que des conditions structurelles le permettent. Alors que nos régimes, même s'ils sont en capacité objective, en fait, de répondre et de prendre des décisions fortes, eh bien, sont très limités par la nécessité de rendre compte dans un délai très court et de subir des coûts dans un délai très court sans voir eux-mêmes les bénéfices sur le temps long. Donc là, il y a une fragilité fondamentale. Après, effectivement, quand on regarde la Russie, il faut regarder toutes sortes de coûts de cette guerre, et pas seulement le coût en termes budgétaires, qui est d'ailleurs plus élevé, je pense, que ce que Michel Duclos a dit, dans la mesure où un certain nombre de recettes sont cachées aujourd'hui dans le budget russe. Donc on évalue plutôt à 20% en fait la part des dépenses militaires dans le budget, plutôt que les 8-9 qui sont officiellement affichés. Mais le coût, en fait, il est divers, il est économique, et on est tous en train d'évaluer d'une manière ou d'une autre la capacité de l'État russe à tenir. Mais il y a aussi, je dirais, ce moment où la loyauté peut basculer, y compris par des transformations extrêmement fragiles, par des événements qui peuvent paraître mineurs, mais qui pourront faire basculer, par exemple, le calcul coût-avantage que vont faire les élites. Je pense, par exemple, à cette loyauté que Poutine exige à la fois de ses administrations à différents niveaux et des élites économiques, des acteurs économiques, qui à chaque fois est extrêmement coûteuse. Hein. Donc, pour l'instant, la contrepartie qu'il leur propose les fait tenir, ça va pas forcément être le cas pendant longtemps. Et puis il y a un autre élément aussi, je me permets juste de l'injecter dans le débat maintenant. L'État russe craint en réalité le retour de ses propres combattants de la ligne du front, qui serait un facteur déstabilisateur extrêmement fort dans la société. Ça peut jouer aussi, même si on n'en a pas conscience.
Merci à tous les deux de cette discussion sur la guerre en Ukraine et la position de chacun des acteurs, les États-Unis, l'Europe, l'Ukraine évidemment, et la Russie. Anna Colin-Lebedev, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne. Merci à tous les deux.